Radio Campus, il est 8h.
Allez, allez. Je suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre.
Et bonjour à toutes et à tous. Il est 8h en ce lundi matin, le premier lundi du mois, et on vient de fêter le 1er mai, enfin je l'espère. Mais ce n'est pas pour parler du 1er mai que nous sommes ici, mais bien de tous essentiels, l'émission du revenu de base présentée par Virginie. Bonjour Virginie,
oui,
ça va
merci.
Bien
merci. Bah, en fait, c'est un peu lié parce qu'on est tous essentiels, donc on a tous droit de fêter le 1er mai.
Bah oui.
Qu'on soit chômage, ou quoi, on a toujours une utilité, on est tous essentiels. Donc bonne fête à tous ceux qui n'auraient pas reçu leur bonne fête du 1er mai. Merci Max.
Je t'en prie.
Aujourd'hui, on reçoit, on est très nombreux.
Mais oui,
on très nombreuses. On reçoit Monique là-dessous, qui nous vient pour représenter un des chevaux de bataille, assez essentiel d'Attaque, association Attaque, qui appartient à un groupe un peu plus grand qui s'appelle l'Union pour la gratuité et le développement des transports en commun, qui dit tout déjà. Merci beaucoup Monique d'être ici.
Ben merci de nous inviter.
Et on reçoit aussi deux stagiaires, Loujaine et Sybille, qui du coup répondront aussi à notre première question. Alors Monique, tu commences. Imagine, à partir de demain, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, rien à faire, c'est à ton nom. Tu travailles, tu travailles pas, tu le reçois. Et c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ou alors, qu'est-ce que ça aurait changé pour toi?
Oui, je pense que c'est pour moi... Je suis à la retraite aujourd'hui, ça changerait pas grand chose. Je veux dire quand même, ça changerait pas grand chose. Ça me permettrait de continuer tout simplement ce que je fais, puisque à la retraite j'ai un revenu qui dépend plus de grand chose.
Et donc juste maintenant que t'es retraité, puisqu'on en rêve tous, enfin beaucoup, t'es sur ton canapé toute la journée à regarder des séries Netflix.
Non. La grande différence, c'est que je n'ai plus un patron ou un chef de service à incriminer. Je suis seule et je suis souvent débordée.
Ah, c'est pas possible.
Par les engagements que je prends, mais en même temps, c'est passionnant. Et c'est à la fois une grande liberté, mais c'est aussi beaucoup de responsabilité. Et donc, c'est vrai que ça fait penser qu'avec le revenu de base, à une autre époque de ma vie, j'aurais certainement pu faire des choses que je n'ai pas pu faire à cause du statut de salarié. Mais alors, revenons sur ta question. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais pu bénéficier d'un revenu de base dans ma prime jeunesse? Eh ben, je pense surtout que j'aurais choisi des études et que j'aurais pu les mener de façon plus sérieuse, parce que moi, qui étais étudiante dans les années 70, j'ai eu un parcours universitaire très chaotique parce que j'ai toujours travaillé. Mon objectif en sortant du bac, c'était d'être autonome, de plus rien demander à mes parents, d'aller vivre à Londres si je voulais, de revenir. Et donc j'ai fait des études, mais de façon très chaotique, en suivant plus ou moins les cours, plutôt moins que plus. Et puis donc ça m'a pris des années, mais j'ai choisi en fait des études de lettres parce qu'elles me permettaient de faire ça. C'était le domaine où il y avait le moins de cours. Et donc voilà. Donc c'est pas vraiment un choix, c'est pas vraiment un projet professionnel, mais ça a été ma vie. Et du coup, si je n'avais pas dû travailler, j'aurais probablement choisi d'autres études. J'aurais pu réfléchir à un projet professionnel et j'aurais fait ces études plus sérieusement.
Oui, ce que j'entends, c'est qu'en fait, t'as fait un choix d'études qui était compatible avec ton autonomie.
Bien sûr, c'est ça.
C'était le prix de ton autonomie,
oui.
C'était de pas pouvoir choisir concrètement.
Et on était nombreux dans ce cas-là. Oui. Surtout en fac de lettres.
Oui, j'y suis passée. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas beaucoup de cours, mais c'est parce qu'on doit lire des tas de trucs à côté. Donc, ouais, je comprends que au-delà du nombre de cours, tu as dû bosser et compléter en plus du boulot.
Toujours.
C'est une triple vie.
Un besoin d'autonomie, et je comprends que les jeunes aujourd'hui qui sont là avec nous ont ce besoin. Donc, le revenu de base, ça leur permet de choisir vraiment d'avoir un projet de formation professionnelle, de plus dépendre des petits boulots. Il y a beaucoup trop d'étudiants aujourd'hui qui travaillent, hein. Il y en a pas mal qui travaillent même la nuit pour pouvoir suivre des cours. C'est très discriminant, évidemment.
Et de ne pas peser sur les parents.
Okay. Bien sûr.
Ça pèse sur la relation qui devrait être affective, simplement affective, mais qui est entravée par... Mais on va leur demander si ça te
bien
va.
Sûr.
Parce que je vois Loujane qui hoche la tête, qui a l'air d'acquiescer. Donc imagine, Loujane, si tu avais demain, à partir de demain, ton revenu de base. Qu'est-ce que ça changerait pour toi?
Bonjour, je suis déjà actuellement étudiante et je travaille à côté, donc ça met un peu de la pression. Donc peut-être avoir des revenus de base, ça me permettre peut-être de concentrer plus sur mes études, d'avoir plus de temps pour m'organiser, pour réviser, pour voir peut-être pour travailler sur mes projets personnels à côté, de définir un projet professionnel, de faire des expériences hors ma licence, quoi. Donc, ça me permettra d'avoir du temps, d'organiser sur d'autres trucs, vraiment, de focusser vraiment sur les études. Là, par exemple, je travaille à côté, donc j'ai pas trop de temps déjà pour organiser mes révisions, pour tout ça. Et en plus de ça, j'ai pas le temps pour ma vie sociale à côté, donc c'est un peu compliqué pour nous, les étudiants qui travaillent à côté, mais...
Du coup, c'est un peu des années, entre guillemets, sacrifiées, quoi.
Oui, voilà, exactement ça.
Merci beaucoup. Et alors, Sybille, t'es un peu plus jeune.
Donc, moi, je suis pas encore étudiante, donc je comprends vos deux points de vue. Mais même avec un revenu de base, quand je serai étudiante, je pense que je travaillerai parce que je veux pas être un poids pour ma mère, ça c'est certain. Et en plus, je pense que travailler à côté, c'est devenir plus mature, parce que malgré les études, on est mature. Mais travailler à côté, c'est savoir s'organiser et savoir comment gérer. Et avec le revenu de base, ce sera bien sûr un petit coup de pouce où je travaillerai moins ou quoi.
Donc ce que j'entends, c'est pour toi le fait de travailler en termes d'emploi, là c'est un peu le sens que vous avez développé spontanément, ça vous donnerait de l'autonomie. En tout cas, toi tu travaillerais quand même parce que ça t'apporterait aussi des compétences, c'est ça, au-delà même de l'argent, mais que le fait d'être rassuré, contrairement à ce que vit Loujane aujourd'hui, ça te permettrait quand même d'avoir du temps pour vivre, de gérer tes études et de pouvoir bénéficier finalement des deux systèmes et des deux types d'apprentissage en même temps sans sacrifier ta vie, tout en ayant l'autonomie, pas peser sur ta mère, etc. C'est ça ?
C'est ça.
Merci beaucoup. Bon, ben maintenant revenons au transport. Alors, on va pas dire transport gratuit, mais transport
en accès libre.
En accès libre.
Encore que la gratuité s'est rentrée c'est dans la tête de beaucoup de gens. Donc, on sait, tout le monde sait que rien n'est gratuit. Donc, passer à un système en accès libre, ça a un coût.
Oui, c'est ça.
C'est évident.
Alors, quelles sont les attentes de cette version
Pour recadrer, nous, notre sujet de travail, c'est on développe beaucoup plus que le revenu de base. Ça ne devrait pas être incompatible. Le développement des services de base universels, services publics. Donc, ça comprend, bien sûr, le logement, les transports, c'est évident, la mobilité, la santé, l'éducation, la cantine et une part d'alimentation. Et donc, c'est avec cette approche qu'on traite, nous, le droit, ce qu'on appelle le droit à la mobilité, et non pas seulement la gratuité. Bien sûr, la gratuité, c'est ce qui apparaît immédiatement, mais c'est surtout en termes de droits qu'on essaye de réfléchir.
Qui est reconnu par l'ONU, d'ailleurs, ça fait partie
oui,
des droits
exactement.
Fondamentaux.
Et puis, le droit à la mobilité permet tous les autres droits. Quand on ne peut pas se déplacer ou qu'on a des difficultés à se déplacer, on n'a pas accès de la même façon au droit à la santé, au travail, à l'éducation, à tous les autres droits. Donc, le droit à la mobilité est pour nous central, essentiel. Et un droit comme disait l'autre, un président, ce droit doit être traité en dehors des lois du marché. Voilà notre position de départ. Il faut considérer que la mobilité, ben, c'est un service public, ça doit être considéré comme un service public et donc traité comme un service public financé sur des fonds publics.
Et donc sans marge privée de type bénéfice aux actionnaires.
Non.
A priori quelque chose qui serait moins cher, quoi.
Oui, c'est bien sûr. Alors il y a pas mal d'expériences en France, hein. Très peu de grandes collectivités, mais il y a pas mal d'expériences en France qui soit gèrent les transports par une régie publique, soit ont quand même une délégation de service public. À Dunkerque, par exemple, ils n'ont pas renoncé à la délégation de service public et ça les a pas empêchés de passer à un système en accès libre, donc gratuit pour les usagers, dunkerquois ou pas dunkerquois d'ailleurs, hein, quand on arrive à Dunkerque, on peut monter dans un bus sans aucun problème. Donc le mode juridique, délégation de service public ou régie publique, n'empêche pas de passer à la gratuité. Mais il va de soi que nous, on pense aussi qu'il faudra passer le plus vite possible à une régie publique, parce que c'est aussi une question de bonne gestion, hein, et plutôt que de nourrir des actionnaires d'un gros opérateur, il nous semble que ça doit faire partie également des prérogatives des élus et des citoyens locaux. Donc l'idéal est évidemment de revenir à des régies publiques des transports.
Tu peux nous expliquer rapidement la différence entre les deux pour...
Eh bien, la délégation de service public, c'est une délégation de service public, hein, c'est-à-dire on considère que le transport à Dunkerque est un service public, mais il est délégué à un opérateur privé qui forcément le fait pour gagner de l'argent, c'est évident. Ouais. Alors dans l'esprit de beaucoup d'élus essentiellement de droite, le privé est plus efficace que le public, ben c'est pas démontré du tout dans beaucoup de domaines. Et nous on pense qu'au contraire, le pouvoir de contrôler et d'agir par les citoyens localement est plus efficace que la délégation de services publics. Mais en attendant, pour ouvrir un gros chantier dans une métropole comme celle de Lille, il faudrait pas mettre comme préalable le passage à la régie publique. Je pense qu'il faudrait avancer et démontrer qu'on peut aller plus loin et qu'on peut faire des économies en venant à une régie publique des transports. Mais la délégation de services publics ne doit pas être un préalable et nous empêcher de réfléchir. Parce qu'à Dunkerque, ils le font, et dans bien d'autres collectivités, à Montpellier aussi.
Je vais faire une petite référence à notre émission du mois dernier avec Pierre Pira, qui nous parlait de la régie publique de l'eau, justement, oui. Et qui expliquait qu'un des freins, c'est que, en fait, à travers la délégation de services publics, on délègue aussi les compétences. C'est-à-dire que les personnes, parce qu'on l'oublie ça, qu'il y a des personnes qui ont des compétences spécifiques, et si ces personnes travaillent pour les entreprises privées, bah, elles ne sont plus dans le giron de la fonction publique, et donc c'est plus difficile de se réapproprier les savoir-faire, les compétences, et même quelquefois les savoir-être, et toute l'organisation, les équipes de travail, etc., si elles travaillent d'abord dans le privé. Et donc c'est aussi tout un transfert à faire, donc on peut peut-être les rembaucher comme fonctionnaires, mais en tout cas oui. Il y a aussi cette limite-là, on l'a vu la dernière fois avec Pierre-Yves pour transférer juste une compétence, c'est pas si simple parce qu'il y a aussi les humains qui portent tout ça, quoi.
Oui, toutes les compétences qui aujourd'hui font partie donc de cet opérateur privé, elles doivent pouvoir non seulement être replacées dans un cadre juridique de véritable service public, de régie, mais on peut même imaginer qu'il y ait un projet de formation et d'élévation des compétences et de la qualité du service dans une approche complètement régie publique et service public, évidemment.
J'espère qu'on va pas transférer aussi les incompétences, parce que bon, au niveau du métro lillois, il y a quand même quelques petits efforts à faire.
Il y a une situation un peu particulière qu'on subit beaucoup en ce moment.
Et peut-être d'ailleurs qu'avec le système, enfin le cadre juridique de régie publique, les citoyens auraient une plus grande place et on entendrait mieux leur point de vue. Là, quand on prend en particulier le métro en ce moment depuis quelques années, on subit, mais on n'est pas tellement entendu. Il y a pas d'instance qui nous permette de nous adresser directement aux élus. Quand on s'adresse aux élus, qui sont d'ailleurs bien souvent sur ce sujet mis en difficulté, un élu, surtout un homme, n'aime pas être mis en difficulté. Mais quand on s'aperçoit que les décisions sont prises en dehors de tout processus démocratique, et que donc ils subissent. Et voilà. Et donc, moi, je pense aussi militer pour la régie publique parce qu'elle permet aux citoyens de prendre toute leur place. Ça nous semble essentiel.
Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu la situation dans la métropole, puisqu'on vient de parler des problèmes de métro en quelques mots?
Alors, la situation dans la métropole, c'est une délégation de service public, évidemment. Et toutes les décisions... c'était bien documenté, bien décrit par un sociologue, Fabien de Sage, qui parle de confiscation du pouvoir, ça fait quelques années. Et donc, l'organisation de la métropole est telle que toutes les décisions, les grandes décisions, sont prises en dehors de débats démocratiques dans les villes. D'ailleurs, moi je regardais là récemment, puisqu'on sort des élections municipales, je regardais les délégations données aux élus à Lille. À Lille, on a les adjoints qui vont s'occuper de la santé, de l'école, de l'éducation, de la culture. Il n'y en a aucun sur les transports. Et donc, les élus ont considéré que c'était plus leur domaine de compétences. Et le seul qui travaillera certainement sur les transports, c'est un élu, ou plusieurs, qui ont été fléchés pour travailler au niveau de la métropole, du conseil communautaire. Malheureusement, on sait, et ça aussi, ça a été très fort documenté, et puis, non seulement ça a été documenté, mais on en a fait tous l'expérience, les grandes décisions qui impactent beaucoup nos vies se prennent quasiment dans les coulisses. Entre maires de différentes communes et qu'on ne trouve trace d'aucun débat dans les conseils municipaux. Moi, je vais prendre l'exemple de la friche Saint-Sauveur et de la fameuse piscine, le feuilleton de la piscine. Oui. Le feuilleton de la piscine est passé d'une évaluation à une trentaine de millions d'euros. À maintenant, ça a dépassé les 90 millions d'euros. On ne sait pas où elle sera, mais il y a déjà un opérateur qui a quasiment signé le contrat de construction de cette gigantesque piscine. Aberration. Aucun débat, rien. Le conseil municipal de Lille n'a jamais traité cette question. Donc ça, c'est le principal problème, et c'est vraiment l'axe sur lequel les nouveaux élus devraient pouvoir faire la différence et remettre un peu et beaucoup de transparence dans les modes de décision. Il y avait quelques années...
Je vais juste faire une petite incise parce que donc il n'y a pas eu de débat malgré les interpellations nombreuses de l'association Parc.
Exactement.
C'est intéressant de caser quand même un moment donné parce qu'ils ont, ils font un gros travail là-dessus.
Sûr. Mais voilà, je te laisse. Et la pertinence de leurs travaux et des démarches juridiques qu'ils ont gagnées, qu'ils ont démontré que beaucoup de domaines de ce projet de construction de 2000 logements, de bureaux supplémentaires sur cette friche était complètement déconnante. Ben, malgré ça, aucun débat.
Merci. Une petite musique.
Mais oui, parce qu'en fait, ça m'a inspiré, figure-toi, ce débat. C'est que, grosso modo, c'est pas moi l'histoire.
C'est pas
moi le responsable, mais non. Et ça, c'est Hélène Piris qui en parle si bien.
C'est Nuremberg, non?
C'est parti.
Une référence, non?
C'est pas moi.
Ouais, tu vois, c'était l'autre soir, là, c'était 22h, je crevais la dalle. Mais il pleuvait, il faisait froid. J'avais vraiment trop la flemme de sortir. Mais j'avais envie de bouffer un truc un peu classe quand même, tu vois. Alors bon, je commande un Uber Eats, et quand le gars arrive, je vérifie ma commande, et je me rends compte que c'était pas du tout ce que j'avais commandé. J'avais envie d'un canard laqué, et là, c'était juste des nouilles sautées aux légumes, tu vois. Alors, je refuse la commande, je lui demande des explications, et là, le gars, il me répond.
Non, c'est pas moi.
C'est le resto qui s'est planté.
Bon alors, ok. Donc, j'appelle le resto, je demande des explications. Et là, le gars, il me dit...
Quoi ? Non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi, non, c'est pas moi.
C'est le livreur qui s'est planté.
C'est pas moi, c'est pas moi.
Ah ouais ?
Bah ouais.
Ah, et du coup ?
Bah, j'ai mangé des nouilles.
Ah.
Ouais, tu vois, c'était l'autre matin, j'avais fait un concert la veille à Paris et bah je prends le train pour rentrer chez moi, je parie faire tôt de Gare de Lyon, je suis hyper chargée. Donc je réserve un taxi et là il y a un gros bug et le taxi il n'arrive pas. Alors j'appelle le standard pour leur demander des explications et là, la nana, elle me dit...
Oh, non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi.
C'est le service commercial qui a merdé. Ok, bon bah très bien, alors j'appelle le service commercial et là la dame, très gentille au demeurant, hein. Bon bah elle me répond...
Oh, non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi, non c'est pas moi.
C'est le standard téléphonique, t'as merdé.
C'est pas moi, c'est pas moi.
Ah ouais? Et du coup?
Bah j'ai loupé mon train.
Ah, bah c'est un peu con, non?
Bah ouais, mais tu sais que ça se tombe.
Ouais, 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 non, ça reste.
Bah ouais. Ouais, tu vois, c'était l'autre jour, j'écoute les infos et je tombe sur l'ouverture de l'enquête du crash d'avion Paris-Tokyo. Je me souviens pas, bah, il y a quelques années, c'était une chute de 3000 mètres par minute, enfin l'enfer quoi. Bref, et donc tu vois, ils interrogent la compagnie aérienne et puis là, il y a le représentant officiel qui me prend la parole.
C'est
l'entreprise de sous-traitance qui a délivré des pièces défaillantes. Et là donc forcément, ils interrogent la fameuse entreprise de sous-traitance et bon bah, tu t'en doutes hein.
C'est
la compagnie aérienne qui a négligé certains contrôles.
Et donc ?
Bah rien, 240 morts.
Ah.
Ouais, tu vois, c'était l'autre soir, là j'étais en soirée avec des copains et j'ai un pote qui commence à s'énerver sur l'écologie individuelle et les petits gestes du quotidien, comme quoi ça sert à rien, qu'on se fout de notre gueule. Tu crois vraiment qu'on va sauver le monde avec des pois chiches en drac et une brosse à dents compostable ? Alors on se demande justement qui doit faire les efforts, et là mon pote, il paye son câble. Enfin Gérard, les seuls qui peuvent changer ce système pourri, c'est les multinationales et les politiques. On le sait, moi elles pourront jamais. Bon du coup, ambiance de merde, je rentre chez moi, j'allume la téloche et là je tombe sur une interview du PDG de Total Energy. Et quand le journaliste le titille sur l'étude du lien entre réchauffement climatique et hydrocarbures que Total connaît depuis les années 70, pépousse le mec, il répond.
Hélène, il y a la lumière du couloir, ça fait une semaine qu'il y a la lumière.
C'est pas moi, c'est pas moi.
Et voilà, c'était Hélène Piri sur les ondes de Radio Campus. Vous aurez compris, c'est une de mes nouvelles chouchoutes pour ce tous essentiels qui est consacré aujourd'hui à la gratuité des transports.
Et Lougène a une question.
Moi, j'ai une petite question. Je voudrais juste savoir c'est quoi les attentes sociales et écologiques de cette... puisque depuis tout à l'heure, on parle de les revenus. Donc, je voudrais juste savoir les attentes sociales et écologiques.
Alors... La gratuité des transports, depuis nous, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille le sujet, c'est devenu un sujet de plus en plus prégnant dans la société. Et ben, j'en veux que pour preuve que quatre candidats à Lille, socialistes, écologistes, LFI et Renaissance, y compris Violette Spielboot, ont placer la gratuité des transports dans leur campagne, mais de façon très restreinte, on en reparlera peut-être un peu plus tard sur ce qu'on peut faire, pour les seniors. Donc ça veut dire que cette question de la gratuité des transports, elle est vraiment maintenant, elle fait partie des attentes sociales de la société. Ils n'ont pas pu faire autrement que de mettre ça dans leur programme, même s'ils l'ont fait en révélant en même temps qu'ils n'ont pas beaucoup travaillé sur le sujet. Parce qu'on reviendra peut-être là-dessus, mais donner la gratuité aux seniors, je ne pense pas que ça soit la meilleure façon de faire avancer le sujet. Mais donc, ça veut dire que c'est quand même un sujet qui est entré dans nos quotidiens. Tout au début, donc il y a quasiment une dizaine d'années, quand on distribuait des tracts, les gens nous disaient tout de suite, ah oh, ouais, c'est super, mais non, c'est pas possible. On n'y arrivera jamais. Mmh. Mais non, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait vrai. D'abord parce qu'il y a des exemples. On a Dunkerque, nous, oui, à côté de chez nous, qui a un super modèle de passage à la gratuité. C'est 200 000 habitants, Dunkerque. C'est la communauté urbaine, donc c'est plusieurs villes. Et puis, la dernière, c'est la métropole de Montpellier, 500 000 habitants quand même. C'est donc, les citoyens connaissent des expériences qui fonctionnent bien. Et donc, la demande sociale, c'est ça. Une demande sociale, c'est une demande qui s'exprime de façon pérenne, par différentes catégories de personnes, par une majorité de citoyens. C'est ça la demande sociale. Et là, elle existe. On peut constater qu'elle existe. Et puis, il y a un autre argument très fort qui alimente cette demande sociale, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan social et écologique, pour moi, c'est difficile de séparer le social et l'écologique, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas d'écologie si elle n'est pas sociale. Et que le social doit être écologique. Et donc, on est dans une période où la pollution atmosphérique fait trop de dégâts. Oui. On meurt en France tous les jours. Ça a été très fort documenté. Nos sources, c'est Santé publique France. On ne peut pas leur reprocher d'être des gauchistes qui veulent révolutionner toute la société. Mais on sait qu'au niveau national, c'est 40 000 morts par an liées directement à la pollution urbaine. Alors la pollution urbaine, c'est essentiellement la voiture, c'est aussi le chauffage urbain chez nous, mais c'est essentiellement la voiture. Et si on ramène ces chiffres à la métropole de Lille, c'est quasiment 1000 personnes par an qui meurent.
C'est énorme.
À cause de la pollution urbaine. La moyenne en pourcentage des décès annuels, au niveau national, ça représente 6%. Dans le département du Nord, c'est 10%, on est quasiment au même niveau que Paris. Et dans la métropole lilloise, c'est 12%. Alors ces gens qui meurent, c'est déjà un coût humain,
bien sûr,
que tous nos élus devraient considérer comme inacceptable. C'est pas le cas malheureusement, mais c'est aussi un coût économique parce que les gens ne meurent pas brutalement. Les gens qui meurent à cause de la pollution urbaine sont d'abord malades et ça représente donc un coût sur la santé et qui est également à prendre en compte dans notre projet. Donc il y a une urgence écologique et sociale à traiter ce problème de façon extrêmement sérieuse et pas de façon superficielle.
Ce serait peut-être un peu cynique, mais puisque certaines personnes, parmi nos dirigeants principalement, ne réfléchissent que par ça, c'est d'évaluer le coût justement notre collectivité, oui, de ces soins, de ces accompagnements, bien des sûr, aidants, etc. Et se dire, bon, on imagine qu'on réinvestirait ça directement.
Exactement, mais il y a d'ailleurs des institutions qui ont chiffré le coût des particules fines qui seraient globalement... qui reviendrait à 200 euros par personne, et sur le dioxyde d'azote, là, ça représenterait 50 euros par tête de pipe en France, par citoyen.
Par an,
c'est énorme. Si on ramène ça aux millions d'habitants de la métropole, donc il y a des économies à faire, non seulement moralement, parce que laisser des gens mourir et être malades à cause de la pollution, c'était inacceptable, mais aussi parce que ça représente un coût. Et quand il s'agira donc de mettre sur la table toutes les ressources possibles pour financer ce service public, eh bien, il faudra bien sûr prendre en compte les économies à faire sur la santé.
Toutes les externalités négatives.
Exactement, oui. Le coût de la non-qualité de l'atmosphère qu'on respire. Et puis, il va de soi aussi que c'est social, parce que les populations qui sont les plus exposées aux pollutions, c'est bien évidemment pas les riverains du parc Barbieux à Roubaix, ni même de l'esplanade à Lille. Mmh. C'est forcément les quartiers les plus populaires, hein, qui sont d'abord privés d'espace vert, beaucoup plus que les autres, et qui sont le plus exposés. Ça aussi, c'est documenté. Au début de notre travail, on avait repéré que la pollution urbaine touchait beaucoup plus globalement Roubaix que Lille. Alors, je n'ai pas les chiffres, mais il va de soi que à Roubaix, les quartiers les plus populaires, comme le Cul-de-Four ou d'autres quartiers, sont beaucoup plus impactés que les quartiers bourgeois, riverains du parc Barbieux.
et on n'a pas encore parlé, mais voilà, c'est peut-être plus compliqué à évaluer, mais de la santé juste de notre environnement, c'est-à-dire des autres formes de vie avec qui on partage la planète, etc. Donc voilà, ça oui, à avoir aussi en tête.
Oui, oui bien sûr. Donc urgence écologique et également urgence sociale, hein, parce qu'on disait en début de cet entretien que le droit à la mobilité permet tous les autres droits, et là il va de soi que il y a une urgence sociale à permettre à tout le monde et à rendre égalitaire le transport et le déplacement et la mobilité. Alors là-dessus, on avait fait une petite enquête sur Roubaix, sur plusieurs quartiers, pour savoir si la tarification sociale, dont on nous rabat les oreilles, était efficace ou pas. Ben non. Donc l'étude qu'on a menée, nous, sur plusieurs marchés de Roubaix, avait été menée également à Dunkerque pour démontrer que la tarification sociale est intrinsèquement, donc par définition, inégalitaire. C'est facile à comprendre.
Je sais que je t'interromps. Tarification sociale, c'est-à-dire que les plus précarisés par la société ont accès à la gratuité ou à un prix moindre
Un prix moindre. La tarification sociale, c'est dire, eh bien, les précaires bénéficient d'un tarif, d'un abonnement à tarif spécial.
Mais ils doivent faire un dossier, ils doivent montrer
pas de blanche. Déjà, il faut montrer qu'on est pauvre.
Déjà, en termes d'humiliation et de tracasserie, moi, charge
mentale. Barrage. Et puis, il faut aussi monter le dossier. C'est-à-dire, dans un quartier de Roubaix, où est installé le Secours Populaire et qui accueille des gens en très grande précarité, la plupart de ces personnes qui viennent de Villeneuve-d'Ascq, d'ailleurs, n'ont pas les papiers qu'il faut et sont pas en règle. Et donc, il leur manque toujours une attestation de ceci ou de cela, il leur manque toujours un papier, et elles n'ont pas accès à la tarification sociale. Etc. Et puis, il y a un autre principe. Donc, à Roubaix, on avait constaté que seulement, alors Roubaix, c'était sur les marchés, hein, donc les marchés sont des lieux de fréquentation populaire. Seulement 25% des personnes interrogées avaient un abonnement.
Alors qu'elles y avaient droit.
Elles y auraient eu droit, très certainement.
Du non-recours.
Mais parce que, si on imagine un peu, quand on est dans la grande précarité, et qu'on a quelquefois dans sa poche ou dans son portefeuille un billet de 10 euros pour nourrir ses enfants, dans la journée, peut-être même sur plusieurs jours, et leur offrir ce dont ils ont besoin peut-être, eh bien, on ne paye pas à l'avance un service dont on va essayer de ne pas avoir besoin. Donc on ne paye pas un service, on va à l'urgence et demander un abonnement, c'est payer sur un mois un service. Donc on va essayer de se passer des transports et on va utiliser d'autres moyens, donc la marche évidemment, ou en dernière instance la fraude. La fraude dans les transports publics répond souvent à une demande légitime de déplacement, mais pour des personnes qui n'ont pas d'autre solution. Alors, elles développent des stratégies différentes. Elles savent que sur tel circuit, il y a moins de contrôle. C'est compliqué. Les jeunes ont leur portable et puis ils s'informent des contrôles à telle station. Très bien. Tout au début, où on a travaillé avec eux, la mutuelle des fraudeurs qui était portée par les ANAR à Lille. Et bon, ils ont été massacrés en 2016 parce qu'ils ont été attaqués et perquisitionnés. On leur a confisqué leurs ordinateurs et le peu d'argent qui pouvait circuler. Mais leur principe, c'était le principe d'une mutuelle. Et moi, j'avais connu ça à Paris aussi bien avant, qui était certainement lancé aussi par des mouvements anarchistes ou étudiants, ça s'est fait. La mutuelle, c'est que chacun paye une petite contribution et que le jour où ils ont une amende, la mutuelle les rembourse. Donc ça, pour moi, ça n'avait absolument rien de délinquant ou de...
Solidarité, en fait.
Voilà, c'est la solidarité qui s'exerce simplement avec des moyens très pratiques.
Est-ce qu'on a une idée de... Quel est le pourcentage du billet qui est consacré à la sécurité et au fait d'acheter des portiques, d'éditer des billets, non. De payer des contrôleurs, etc. Parce que plus ça avance, plus je me dis que et particulièrement à Lille, on a principalement investi dans le fait d'avoir des nouveaux portiques, plein de contrôleurs, etc. Mais ça, ça a un coût aussi.
C'est un coût énorme. On avait évalué à 1 million par station de métro.
Il y en a un paquet.
Des portiques, mais ça s'est compté sans leur entretien. Et donc, ça a un coût énorme. On a beaucoup de difficultés. On n'a pas obtenu. On a écrit plusieurs fois. On s'est même adressé à la CADA parce qu'on n'avait pas de réponse de la métropole. On s'est adressé au président de la métropole pour leur demander le coût de la billetterie. Parce qu'on sait ce qu'elle rapporte. Hein, c'est aux alentours de 85 millions.
Par
sur
an.
Un budget de 500 millions.
D'accord.
Mais on ne sait pas ce qu'elle coûte. Et d'ailleurs... Et donc, il y a une mauvaise volonté des élus de nous renseigner là-dessus. Mais on peut imaginer qu'en effet, ça sera un argument très fort à mettre.
Et les contrôleurs, et voilà.
Bien sûr, l'entretien de la billetterie, des personnels qui délivrent les abonnements, etc., et des contrôleurs.
Et les campagnes de publicité, parce que frauder, c'est moche, et ça se voit, c'est hyper...
Alors la fraude représenterait... Je vais parler aussi d'une loi... liberticide et que nous voulons faire abroger. Elle date de 2016, c'était sous le mandat de François Hollande, et le député s'appelle, je reviendrai sur son nom tout à l'heure, c'était Savary, Gilles Savary. Et il a tout simplement, dans une loi censée favoriser, diminuer les incivilités, et le terrorisme dans les transports publics ainsi que la fraude. Donc c'était mettre au même niveau les fraudeurs et les terroristes quasiment. Heureusement, d'après un rapport du Sénat, cette loi est difficilement applicable. Et aujourd'hui, on évalue à 5% la fraude, c'est-à-dire rien, quasiment rien. Donc criminaliser les fraudeurs, moi je trouve ça complètement indigne, en particulier d'un député socialiste. Mais par exemple, si moi ou toi nous prenons notre voiture, si on se gare mais qu'on paye pas le parking, on est en infraction, on risque d'avoir une amende. C'est pas un délit. Mmh. Alors que là, avec la loi Savary, le fraudeur qui ne paye pas son ticket de transport est considéré comme en délit. Il est criminalisé même par cette loi. Donc ça, c'est insupportable pour nous.
Petite musique.
Yes.
Allez, c'est cadeau, Marie Laforêt, un classique. Allons-y.
Hier soir, dans la cuisine, je préparais le dîner. Quand mon petit garçon est entré, il m'a tendu une feuille de papier griffonnée. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, je l'ai lu. Et voilà ce qu'elle disait.
Pour avoir vu mon lit toute la semaine, 3 francs. Pour avoir été aux commissions, 1 franc. Pour avoir surveillé le bébé pendant que toi tu allais aux commissions, 1 franc 25. Pour avoir descendu la corbeille à papier, 75 centimes. Pour avoir remonté la corbeille à papier, 1 franc 10 centimes. Pour avoir arrosé les fleurs sur le balcon, 25 centimes. Total, 9 francs et 85 centimes.
Je l'ai regardé. Il s'est tortillé en mâchant son crayon. Et une foule de souvenirs sont revenus à ma mémoire. Alors j'ai pris le papier. Je l'ai retourné. Et voilà ce que j'ai écrit. Tant de nuits de paix.
cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau.
Quand il a eu fini de lire, il avait un gros chagrin dans les yeux. Il a levé la tête et a dit:
Maman, je t'aime très beaucoup.
Alors il a retourné la feuille et en grosses, grosses lettres a marqué: cadeau.
Et quand on fait le tour, le total de l'amour,
c'est cadeau.
Voilà ce que devrait dire un État qui aime ses citoyens.
Hein? Si, il y avait une question pour toi, Monique.
Donc ma question, c'est comment peut-on y arriver au niveau municipal, puis après départemental? Parce que c'est la question, c'est on y est depuis tout à l'heure, mais concrètement, comment peut-on y arriver?
Alors il y a deux approches. L'approche gestionnaire et l'approche politique, qui est beaucoup plus ambitieuse et... Voilà. La gestionnaire est très simple. Hein. Chaque commune, chaque ville a le pouvoir de décider que ses administrés voyageront gratuitement dans toute la métropole lilloise, simplement en remboursant les abonnements de ses administrés. C'est ce qu'ont fait les collectivités de communes des Mines, Hénin-Carvin, Lens-Liévin,
Béthune.
Lesquelles, elles ont commencé pendant plusieurs années à rembourser les abonnements de leurs administrés pour passer en janvier 2026 à la gratuité totale, donc la suppression de la billetterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que la billetterie pèse de moins en moins dans le financement des transports publics urbains. Elle représentait dans les années 70, c'est facile à retenir, à peu près 70% du coût. Des transports. Aujourd'hui, au niveau national, on est à 15%. La billetterie ne représente plus que 15% du financement des transports publics urbains. Et dans la métropole lilloise, on est plutôt à 20%. Mais nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, on dépassait les 30%. C'était au moins 35-40% la billetterie.
Mais du coup, ça devrait être moins cher.
Alors,
puisque ça coûte moins.
Ça coûte moins en proportion, en pourcentage, mais les budgets explosent. C'est vrai, ça coûte moins cher et ça coûterait moins cher, en effet, si on augmentait le nombre d'usagers des transports publics. Ça, c'est évident. Donc, une ville peut le faire. Certaines l'ont fait, y compris dans la métropole lilloise, pour les seniors qui, à Tourcoing, ont un transport gratuit parce que la ville leur rembourse leur abonnement. Mais si on réfléchit bien... si on se contente de ça, donc on a une approche qui peut être sociale, évidemment, c'est redonner quand même du pouvoir d'achat à certaines catégories, puisqu'on leur permet de voyager gratuitement, mais c'est pas cette mesure qui permet de transformer complètement les modes de mobilité de la métropole et qui sont encore beaucoup trop par la voiture. Et donc, avec les conséquences en termes de pollution qu'on connaît et qu'on a déjà abordé. Donc le véritable projet doit se mener au niveau de la métropole, évidemment. Parce que si on considère que la pollution vient, je ne vais pas incriminer nos voisins, mais la pollution de la métropole lilloise, elle ne vient pas que des résidents, elle vient de ce qu'on pourrait appeler au sens large les habitants de la métropole, c'est-à-dire ceux qui y viennent, qui y habitent pour le travail, qui y travaillent, ou qui viennent pour les loisirs ou pour les services publics. Et cela, c'est très largement beaucoup plus que les habitants résidents et qui payent des impôts dans les villes de la métropole. Quand on regarde les flux, les embouteillages tout autour de l'île, ben les gens viennent du Dunkerquois, du Valenciennois,
de Belgique,
des mines, des collectivités des mines. Et donc ce problème, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le résoudre. Et partir des besoins des gens. C'est-à-dire, les gens sont pas des imbéciles complets. S'ils continuent
ils sont un
à
peu
se
experts
foutre
de leur vie, quoi.
Tous les jours dans des embouteillages, s'ils continuent à perdre du temps, il y a un organisme qui s'est amusé à calculer le coût des embouteillages en France, c'est 17 milliards par an.
Oh,
l'INRI, un petit institut qui surveille les flux de voitures partout en France. Et donc, si les automobilistes continuent à prendre leur voiture pour se déplacer et venir dans la métropole où ils ont le travail, les loisirs et les services publics essentiels, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce que les transports publics ne sont pas à hauteur de leurs demandes et de leurs besoins. Donc, il faut partir de là.
Et aussi parce que les employeurs ne sont pas censés payer les heures passer dans leur voiture comme
exactement
des heures de travail, parce que quelque part
oui,
ça pourrait
ah, mais l'absentéisme dû aux embouteillages et à la pollution et aux maladies liées à la pollution urbaine, il est aussi documenté, hein, très très fort. Les employeurs, tiens, parlons des employeurs, ce sont eux qui financent aujourd'hui c'est les premiers financeurs des transports publics urbains. Ils sont à 43% au niveau national et dans la métropole à 50%. Ce sont les employeurs. Alors, ils payent ce qu'on appelle le versement mobilité. C'est une taxe sur les salariés, un pourcentage. Ça concerne les entreprises de plus de 10 salariés, hein, à partir de 11 salariés. Et cette taxe, elle est plafonnée par le national. Elle entre dans le cadre de la loi de finances et donc tous les ans, elle est plafonnée en fonction de la typologie de la collectivité, donc si de sa taille, évidemment, si elle a un système de développement des transports publics, il y a des tas de critères, mais c'est essentiellement la taille et l'organisation. Il faut qu'il y ait une organisation, l'autorité organisatrice des mobilités, c'est l'AOM, c'est la communauté urbaine ici, enfin c'est
d'accord
la métropole. Et donc, les employeurs, non seulement payent cette taxe, et ils sont les premiers financeurs, mais en plus, ils remboursent une partie des abonnements de leurs salariés. C'est 50%, voire 70% dans certaines collectivités publiques. Donc les employeurs payent déjà très cher. Si en plus, ils avaient un réel service, je pense qu'ils n'auraient aucun problème à payer peut-être un peu plus, parce qu'ils n'auraient pas à financer des parkings, oui, des garages, des voitures de fonction, etc., pour leurs salariés. Ça peut être un argument très fort.
Et juste, y compris aussi des employeurs publics.
Enfin, bien
moi,
sûr,
je suis l'éducation nationale.
Publics, exactement.
L'éducation nationale, soit j'ai le choix, soit me rembourse la moitié de mon, oui, abonnement mensuel, ou alors me donne 300 euros pour une mobilité douce, voilà, et je dois prouver que j'ai un vélo, etc.
Exactement.
Voilà. Donc, il y a aussi des transferts publics. on revient quand même à ce qu'il y ait une partie qui est payée par nos impôts.
Déjà, du coup, bien sûr. Bah, bien sûr,
c'est pas que du privé, je veux dire. Quand on parle des entreprises, c'est aussi...
Ah, mais c'est essentiellement public, parce que c'est ce versement mobilité qui fait l'essentiel. Et après, la deuxième source de financement, ce sont les collectivités. Donc, c'est l'argent public des collectivités. Ça représente plus de 30% au niveau national. Il y a une autre source de financement, c'est les emprunts. Les collectivités qui doivent emprunter pour financer. Et puis, dans tout cela, l'État intervient à hauteur de 2% du financement des services publics de transport locaux. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faudrait changer. Alors, je vais revenir sur le versement mobilité. Il est plafonné. Dans notre métropole, c'est 2% la masse salariale. À Paris, ça a été déplafonné plusieurs fois. Aujourd'hui, ils ont dépassé les 3%. Ça doit être 3,5% dans l'Île-de-France. Ce qui est un peu logique parce que l'Île-de-France, c'est pas seulement une métropole. C'est aussi un département. Enfin, c'est beaucoup plus. Et nous, ce qu'on revendique, c'est le déplafonnement. On s'aperçoit que, au niveau national, ça c'est un rapport du Sénat qui le dit, 65% des collectivités utilisent au taquet ce versement mobilité. C'est-à-dire si elles peuvent prélever, si l'impôt peut être prélevé à 2%, elles iront jusque-là. C'est ce qu'on fait dans la métropole lilloise. Mais c'est pas suffisant. Il faudrait déplafonner. Alors déplafonner, ben, ça dépend donc de nos élus, de nos parlementaires, puisque c'est la loi de finances qui le décide. Donc il y a un travail à mener avec nos députés localement. Ça, c'est important à retenir. Il y a un pouvoir local des élus des villes et de la communauté, et des communautés urbaines et de la métropole, mais il y a aussi des interventions nationales et en particulier sur beaucoup de taxes additionnelles qui sont du ressort du national. Sur les autoroutes, les plus-values immobilières, bon, pour en citer plein. Donc, il va falloir travailler à ces deux niveaux, national avec nos députés, sénateurs, et avec les élus locaux qui ont malgré tout un pouvoir. Alors, le rapport du Sénat que j'ai déjà cité, il est très intéressant, il est sorti en 2023, et il dit, attention, les collectivités vont dans le mur. Attention. Alors c'est
pourquoi
le Sénat, qui par ailleurs n'est pas un grand militant pour la gratuité, mais a fait un travail quand même très très intéressant sur le financement des transports publics. Et il part de cet engagement de la France qui est censé diminuer à l'horizon 2030, on y est bientôt, de 40% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, et donc de diminuer de 30% les flux de voitures. Et si, nous dit le Sénat, qui n'est pas un gauchiste, hein, nous dit le Sénat, si on veut atteindre cet objectif à l'horizon 2030, il faudrait multiplier par 3 ou 4 l'offre de transport public dans les villes et les métropoles.
Ça fait rêver.
Alors, ça fait rêver. Multiplier par 3 ou 4, je vous imagine... Je n'ose même pas imaginer le budget que ça ferait. On est déjà à un budget de 500 millions.
Et le prix du ticket qui est de 1,80 aujourd'hui à l'heure.
Exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur le prix du billet pour investir dans un système qui, de développement des transports publics urbains, écologiques, sociaux
et solidaires.
Et sanitaires, évidemment. Ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement. Et réfléchir autrement, c'est réfléchir en politique. Et puis en comptable. Voilà. C'est pas nous dire, moi je suis irritée quand un élu me dit, mais ça va coûter trop cher, on va pas y arriver. Non, je n'attends pas de lui qu'il me parle de ça. Nous avons des comptables dans tous les services publics locaux, les mairies ont des comptables. Elles sont au service des élus pour apporter des chiffres et pour les aider à réfléchir. Ce qu'on attend, c'est des décisions politique, ambitieuse, d'envergure, courageuse, c'est une décision politique. Le vrai, ce que j'attends, moi, d'un élu, c'est qu'il dise, il y a une urgence, on va le faire. Et on va voir comment on y arrive. On va mettre en place un dispositif dont on va parler maintenant pour y arriver. On va pas le faire en claquant dans les doigts en 15 jours, mais on va y arriver parce que c'est notre objectif. Et c'est un objectif politique.
Et là maintenant, on a tous envie de savoir, mais comment, le plus petit pas possible, ça sera quoi, c'est quoi là?
Alors, on va éliminer donc du coup les gratuités partielles et qui peuvent être dès maintenant une aide sociale au pouvoir d'achat des citoyens des villes. Mais donc comment faire pour que les élus ouvrent ce grand chantier et de façon démocratique? Ah. Il faut déjà au départ une volonté. Il faut une volonté, et ça, on compte beaucoup là. Moi, je compte beaucoup sur les nouveaux élus qui se sont engagés à mettre plus de démocratie dans le fonctionnement de la métropole. Il faut que les élus pensent avec les citoyens. Alors, il y a des tas de solutions. Moi, j'ai pas ici une solution unique et clé en main, mais faire participer les citoyens, c'est pas seulement les concerter. On sait que ça, c'est la concertation telle qu'elle est pensée par les élus aujourd'hui, c'est une véritable fumisterie, c'est une tromperie totale. Je voudrais citer, par exemple, à Roubaix, il y a un tramway qui va se construire, qui traverse divers quartiers. Dans un quartier, la Fosse aux Chênes, il est question, pour faire passer ce tramway, de démolir des habitations. Donc c'est un projet qui a un impact très fort sur la vie des gens. Eh bien, la concertation s'est résumée à une réunion qui a rassemblé 20 personnes sur un quartier. Donc une réunion, on peut dire que ça dure 2 heures, 3 heures, au cours desquels l'élu va prendre la parole pendant au moins la moitié du temps, avec son PowerPoint et puis son assurance. Il va occuper le terrain. Et ensuite, s'il y a quelques courageux dans l'Assemblée qui osent lever la main et poser la question, ils le feront. Mais globalement,
les habitants de ce quartier vont subir des démolitions. Certains vont être expropriés, s'ils sont, ou ils vont devoir déménager. C'est un impact énorme. Ils n'ont pas participé au projet. Mmh. Donc la concertation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est une vraie tromperie de nos élus. Moi, je suis pas d'accord avec ça. En revanche, il y a des tas de moyens de faire participer les citoyens. Et sur certains sujets, il va de soi qu'on peut pas imaginer une collectivité où on serait en assemblée générale et à refaire le monde tous les jours. C'est pas possible. Mais sur des sujets très impactants comme celui-là, l'eau en est un autre, hein. Les premiers mètres cubes d'eau gratuite, c'est un sujet qui pourrait être traité de la même façon. Les cantines gratuites, enfin, il y a plein de sujets qui peuvent être
traités. Et qui intéressent, pour le coup, bien sûr.
Qui intéressent le public, évidemment. Eh bien, il faut, d'abord une volonté des élus, évidemment. S'ils s'enferment dans leur bunker, on n'arrivera jamais à rien. Mais s'ils ont la volonté de s'ouvrir, il y a des tas de possibilités d'organisation, un travail collectif, un travail, qui partirait, donc qui rassemblerait à la fois les citoyens, tirés au sort de préférence, mais en s'assurant qu'ils s'engagent vraiment et qu'ils ont les moyens de s'engager, mais également les élus, et puis
les techniciens.
Les techniciens, les experts, et monter une sorte d'assemblée populaire qu'on appelle convention citoyenne ou peu importe, mais une assemblée qui serait pas comme les conventions citoyennes qu'on a pu connaître dans sur le climat ou la fin de vie, qui serait pas simplement un recueil d'avis à partir duquel les élus
seraient décisionnaires aussi,
donc quelque chose qui engagerait les élus au départ, donc ça veut dire une véritable volonté des élus de dire nous on va travailler avec vous, ça va prendre le temps qu'il faudra, ça va coûter, mais on construira ce projet de mobilité dans la métropole avec vous.
Et il faut comprendre aussi que quand on fonctionne de cette manière-là, non seulement le projet qui va sortir est beaucoup plus adapté au terrain parce qu'il part des gens qui sont experts de leur vie, et en plus on économise, alors je me plains de guillemets économie parce qu'il n'y a pas que les économies financières, il y a aussi les économies sociales, etc., même psychologiques, on économise des freins plus tard, des forces d'inertie ou même des oppositions tout au long des travaux, parce que les gens se seront appropriés aussi les enjeux, auront compris pourquoi certaines décisions sont comme ci et pas comme ça, et ils auront pu eux-mêmes parler de leur propre vie.
Bien sûr. Ils ont évité aux élus de faire des grosses conneries. Si j'ai le temps, juste rappeler qu'il y a quelques années, les élus de la métropole avaient décidé de diminuer la subvention à l'opérateur. Et quelques mois plus tard, on s'est aperçu, les habitants de Roubaix se sont aperçus qu'il y avait des bus qui passaient plus, que les fréquences de bus avaient diminué. Ils étaient furieux et les élus ont dû s'excuser platement. Ils ont reconnu qu'ils avaient pris une décision déconnante. Enfin,
alors personnellement,
alors que si l'opérateur était nous appartenait directement, il n'y aurait pas tant de...
Il y aurait eu, bien sûr, un dialogue.
Et personnellement, je ne vais pas le citer parce que c'était dans un cadre qui n'était pas officiel, mais un des élus des mandats précédents qui a voté sur l'installation de ces portiques, etc., et qui m'a dit, texto, « Ah bah oui, mais en fait, au début, c'est écrit en toute petite ligne, on n'a pas compris, et que c'était juste pour essayer sur 2-3 stations, et en fait, on avait signé pour un élargissement qu'on n'a pas vu. » Alors, entre tromperie, entre une sorte de naïveté quand même confondante à ce niveau de décision, ou carrément lobbying ou clientélisme, bon, il y a aussi ces enjeux-là démocratiques qui répondent à ce
fort.
Que tu dis.
Je disais tout à l'heure dans l'entretien, oui, les élus sont mis en difficulté quelquefois quand on leur pose des questions précises, et notamment sur le coût de la billetterie. Et donc, et quand ils se retrouvent dans cette masse d'assemblée de la métropole métropolitaine, eh bien souvent soit ils ont des consignes politiques, ils savent qu'ils vont voter pour tel ou tel truc, mais le débat et les choix ont été faits en dehors de l'assemblée, donc de façon tout à fait antidémocratique.
On va devoir clôturer là. En tout cas, on retient que c'est bon pour tout le monde, que c'est complètement faisable. Oui. Et pour en savoir plus, j'imagine que le site d'Attaque développe cette problématique et toutes vos recherches.
Bien sûr.
Donc, tapez Attaque,
ou l'UGDT, maintenant l'UGDT, UGDT et Attaque Lille, oui.
Et développement des transports. Voilà. Merci beaucoup, Monique.
Merci
aussi à vous toutes deux, Loujane et Sybil, et bien sûr Max avec la musique.
Et on se retrouve la semaine, le mois prochain. Mais oui, le mois prochain.
Pour une autre version. Bon mois à tous.
Merci et au revoir.